Maghreb, Juliette Rangeval.
Bonjour, la crise des OQTF, la guerre médiatique, la condamnation à 5 ans de prison de Boualem Sansal en Algérie, le changement de position de la France sur le Sahara occidental, le chemin du dialogue entre Paris et Alger paraît aujourd'hui bien étroit et ces tensions se traduisent par une perte d'influence de la France. Cela profite à l'Italie. Le gouvernement de Giorgia Meloni a un plan pour l'Afrique du Nord axé sur les hydrocarbures et la migration. Nous en parlons avec une spécialiste de l'Italie, la politiste Anne Marionnen. Mais d'abord, nous partons pour Alger.
Je me suis senti comme à l'étroit, j'ai compté sur ma bonne étoile, sans coup d'être solo si tu savais. Tu mérites piscine sur le toit, recevoir virement tous les mois pour toutes les galères que t'as braves.
En ces temps incertains pour les franco-algériens, l'aventure de Yanis Attek tient du pari. Fondateur du restaurant Galatée à Alger, il a quitté la France pour l'Algérie afin de poursuivre son rêve, ouvrir un restaurant. Reportage de Keira Yaya.
Alors, bon appétit, bien sûr.
Bon appétit, c'est une bonne idée.
Arrivederci, au revoir.
Et bon appétit, bien sûr.
À 7 ans, Yanis se découvre une passion pour la cuisine face à l'émission « Bon appétit, bien sûr » du chef Joël Robuchon sur France 3. Lors de ses premiers essais de recettes, les moqueries de ses camarades ne le découragent pas. Il s'accroche, même contre l'avis de ses parents, et aussi face aux difficultés de l'école et de la formation professionnelle. Après un stage dans un restaurant étoilé, il trouve enfin sa place en cuisine dans un établissement traditionnel de Montpellier.
Une mousse, on en voit. C'est chaud, s'il vous plaît.
L'histoire pourrait s'arrêter là, de ce côté de la Méditerranée, quand sur un coup de tête, il décide d'ouvrir un restaurant à Alger, où il est venu passer quelques mois.
Ça n'a pas été facile. Je ne suis pas venu m'installer et ça a pris d'un coup et ensuite tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, ça a été trop compliqué. Les brunchs, ça ne marchait pas du tout alors que j'avais presque tout misé dessus pour les week-ends. L'été 2019 a été très compliqué financièrement parlant. J'ai vécu pendant 5-6 mois dans mon restaurant.
Et pour ce qui est de l'entourage ?
Je connaissais vraiment personne, à part les sœurs et frères de ma mère. Et mes cousins et cousines, je connaissais vraiment personne ici. J'avais aucun ami, aucun contact. En fait, j'étais jamais venu ici hors été. Seul moment où j'avais connu l'Algérie, c'était entre le mois de juin et le mois de septembre. C'est tout. Je me suis jamais senti aussi serein, aussi heureux dans un endroit. Et même si j'ai toujours été heureux en France et je le serai toujours. Mais c'est vrai qu'ici, c'est particulier. Aujourd'hui, quand je pars en vacances, au bout de 10 jours, l'Algérie me manque.
Tu t'es plutôt bien adapté ?
J'ai été accueilli comme un Algérien qui avait été là depuis toujours, en fait. Je ne connaissais même pas la communauté algérienne en France quand j'y vivais. Donc j'ai vraiment découvert l'Algérie et les Algériens en venant m'installer ici. Je parlais même pas la langue, je comprenais quelques mots, mais ça ne me permettait pas de tenir des conversations. Mais c'est vrai que ça a été un vrai coup de cœur, humainement parlant, ça a été un vrai coup de cœur ce pays.
Ensuite, tout s'accélère. Organisation d'événements, contrats avec des sociétés, prestations chez des particuliers, production de vidéos sur les réseaux sociaux, son restaurant devient incontournable. Il met un point d'honneur à travailler avec des produits locaux en partenariat avec des artisans algériens.
Le fait de les mettre en avant, ça les fait travailler, ça fait tourner l'économie. Enfin, c'est un peu le but de la production locale. Pour nous, on se retrouve à avoir des produits en circuit court, plus qualitatifs. Et c'est quand même une fierté quand tu sors ton assiette et que tu sais qu'il y a des vraies personnes derrière tous les produits que tu sers, en fait. C'est quand même une fierté de pouvoir sortir ça, tu vois. Que ce soit pour nous, pour les clients ou pour les artisans eux-mêmes.
Aujourd'hui, il trouve en Nail, un ami cuisinier et créateur de contenu culinaire sur Instagram, un bon binôme en cuisine. Nail lui donne la force de voir plus grand. Il prend donc le pari fou d'ouvrir un grand restaurant éphémère pendant le mois de Ramadan.
On a ouvert le mercredi 12 mars. On a publié une vidéo d'annonce pour l'ouverture dans l'après-midi vers 14-15h. Avant ça, il n'y avait eu aucun message, aucune communication, on n'avait rien annoncé du tout. On a eu du monde dès le premier jour, dès le mercredi soir. Et après, c'est devenu la folie. On a passé un week-end de folie, en fait. Il y a eu énormément de monde. L'engouement autour du projet a été extraordinaire. On savait qu'il y avait des chances que ça marche. Pas à ce point. Et moi, pour n'en cacher, j'en ai pleuré le premier jour. Parce que vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est quand même fou d'annoncer l'ouverture d'un nouveau spot le jour même et d'être complet dès le premier jour, en fait. Et ça, je suis super reconnaissant.
Un succès souligné par les clients attablés dans la salle de restaurant, comme Senda, 32 ans.
J'ai vu qu'il s'était beaucoup imprégné de la culture algérienne, qu'il a travaillé avec beaucoup de producteurs locaux, et puis il a fait des espèces de petits feats et de partenariats avec des artistes algériens, avec des chefs algériens. Donc moi je trouve ça super. Tout son concept et tout son parcours à date, pour moi c'est un sans faute.
Ou Hana, une habituée depuis plus de 5 ans.
Ce qui m'intéresse chez lui, c'est la créativité, c'est la nouveauté, c'est qu'il propose à chaque mois un nouveau menu. C'est très intéressant de ne pas s'ennuyer. Il ramène un peu des concepts qu'on ne voit qu'à l'étranger quand on voyage. Donc il propose des concepts un peu tendance, qu'on retrouve un peu partout ailleurs.
À présent, Yanis est devenu un repère pour quelques franco-algériens comme lui, qui viennent à sa rencontre pour apprendre davantage et envisager une voie similaire.
Ahlef, wallah, je te jure, sous la tête ma mère, sur mon passeport rouge, sous la tour Eiffel, sous quest'ultimo grammo di couche, sous nos salons cahlouche, que balla sous la misère, majlaï, majlaï, l'ahnèche, wallah.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval.
Flouscash, mais non cambio la zone. La tua tipa ci prova, vuole fare un plongeon. Vuole fare un plongeon, ma non ha la piscine. Vuole pure un passport. Quello rouge, quello green. Suo pa dice no, suo ma dice sì. Vuole un figlio muslim. Se non entro, ballo fuori. Prendi la step by step. Lo capisci solo se lo provi. Wish you the best of the best. Voglio riempire il mio pasto. Voglio solo farlo con te. Fino alla fine con te.
L'Italie profite en ce moment des difficultés françaises en Afrique du Nord. Bonjour Anne-Marie Onen.
Bonjour.
Vous êtes politiste, spécialiste de l'Italie. Ces difficultés, est-ce vraiment une aubaine pour le gouvernement Meloni ?
C'est à la fois une aubaine dans laquelle l'Italie, sous sa conduite, s'engouffre, mais c'est surtout une confirmation d'une politique qui est menée depuis quelques années par le gouvernement de Giorgia Meloni. Cette politique s'est incarnée dans ce qu'on appelle le plan Mattei. Le plan Mattei, c'est un virage stratégique pris par Giorgia Meloni qui vise à repositionner l'Italie vers l'Afrique du Nord pour toute une série de raisons qui tiennent à la fois aux aspects migratoires, aux aspects d'indépendance énergétique, mais qui ont aussi une origine historique.
Oui, vous dites repositionner l'Italie, donc elle était déjà positionnée dans cette région du monde.
Historiquement, sans aucune hésitation, on peut dire que oui, l'Italie, elle s'est positionnée très tôt. Peut-être pas remonter jusqu'à l'Empire romain, on pourrait le faire. Après les guerres puniques, l'Afrique septentrionale devient une province de l'Empire. Mais ce qui est surtout flagrant, c'est que c'est une histoire de relations à travers la Méditerranée, que les Italiens continuent à appeler Mare Nostrum, comme les Romains. Une histoire de relations qui ne s'est pas démentie depuis cette période. Ce sont des échanges commerciaux, ce sont des implantations. Qu'on se souvienne que la Sicile a été arabe jusqu'à l'arrivée des Normands au XIIe siècle. Et des échanges extrêmement forts avec les grands ports de la Méditerranée. Je pense à Bougie en Algérie, à Ceuta au Maroc. Et tout ça a perduré assez longuement. Et lorsque les Italiens reprennent pied en Libye, en Tripolitaine, en 1911, ils ont en tête ce passé glorifié à son tour par Mussolini dès 1922. Ils parlent d'impérialisme méditerranéen. Et lorsque les Italiens vont perdre, si je puis dire, leur place en Tunisie, ça a été très très mal vécu puisqu'ils ont dû céder la place à la France. Et lorsqu'ils perdent la Libye, c'est également mal vécu. Ce sont des périodes qui sont encore très vivement ancrées dans la mémoire italienne. Lorsque le colonel Kadhafi est arrivé au pouvoir en 1969, il y avait encore une trentaine de milliers d'Italiens qui étaient là, sur place. Ils ont dû rentrer chez eux, être expulsés du jour au lendemain. Les biens, les entreprises ont été nationalisés. Et donc ça n'a pas été oublié. Et il y a toute une politique italienne qui s'inscrit un peu dans le fil de cette histoire, avec des traités. Par exemple, en 2008, Berlusconi va signer un traité d'amitié qu'on appelle le traité de Benghazi avec la Libye, qui vise à renverser cette tendance. Il faut imaginer qu'en Libye, à partir de 1970, chaque année sera célébré le jour de la vengeance. Le jour de la vengeance, c'est le 7 octobre. Ça marque le renversement de tendance par rapport à l'influence italienne et l'autonomie retrouvée de la Libye par rapport à cette influence économique.
Le travail de mémoire, le travail de réconciliation n'a peut-être pas été très avancé là non plus. Enfin, on sent qu'on est sur des idées qui sont peut-être un peu figées dans le temps, non ?
Alors, c'est un peu complexe parce qu'il y a à la fois cet héritage-là et puis il y a à la fois l'idée que, et c'est ce qui est avancé par Giorgia Meloni pour propulser hein, ce plan Mattei, que ce plan, c'est un plan qui est nourri par une empreinte anticoloniale et par une volonté de coopération et d'autonomie des pays, plus que par une relation qui serait un peu celle que la France entretient avec ses territoires. Bon, on peut discuter sur cette question. Elle s'inscrit un peu dans ce que voulait faire Enrico Mattei.
Il faut rappeler, hein, donc Enrico Mattei, grand homme d'affaires italien, c'est le patron de Eni, de la grande société d'hydrocarbures italienne.
Oui, absolument. Mmh. C'est une figure vraiment très emblématique et particulière, pas seulement en Italie. C'est celui qui va essayer d'assurer à l'Italie son autonomie énergétique après la guerre. Et il va réussir à le faire d'une manière intéressante en se positionnant contre ce qu'on appelait à l'époque les sept sœurs, BP, Mobil, Shell, enfin toutes les grandes entreprises du pétrole. Et il va aller proposer des contrats dans différents pays, de l'arc méditerranéen et d'Afrique, des concessions à des conditions bien plus favorables que ce que proposaient les sept sœurs. Par ailleurs, il va aussi se positionner pour l'autonomie des peuples et leur autodétermination. Ce sera un grand soutien de Nasser en Égypte, mais également du FLN en Algérie. Et des doutes pèsent sur sa mort. Accident d'avion. Il y a eu longtemps le doute de savoir si sa mort n'avait pas été commanditée, notamment par l'OAS. Bon, les historiens n'en ont plus guère maintenant, mais ça donne une idée de l'endroit où il se place.
Où il se situait, oui. Et donc, ce plan Mattei de Meloni propose d'avoir une autonomie énergétique renouvelée, c'est ça ?
Alors, le plan Mattei, hein, c'est quelque chose de très intéressant là, dans ce que fait le gouvernement Meloni, pour plusieurs raisons. D'abord, ça propose un partenariat avec l'Afrique et qui comprend différents pays du Maghreb et peut-être l'année prochaine, outre l'Algérie, la Tunisie, la Libye, peut-être va être ajoutée la Mauritanie. Donc c'est à la fois un projet de partenariat, un projet de coopération, mais c'est aussi un projet qui sert les intérêts du gouvernement Meloni et d'une partie de l'Europe, puisqu'il sert aussi à endiguer les flux migratoires. Donc pour l'Italie, c'est très important parce que c'est assurer sa sécurité énergétique et contrôler les flux migratoires. Donc c'est à la fois, on va dire, un passé colonial, c'est un présent migratoire et c'est un futur économique pour ces différents pays, quoi.
Sur la question migratoire, on a vu diminuer le nombre d'arrivées hein, depuis la mise en place du plan Mattei, me semble-t-il.
C'est pas exactement présenté comme une conséquence du plan Mattei. Le plan Mattei, il a été annoncé dès l'arrivée de Giorgia Meloni au gouvernement. Quand elle a prononcé un discours devant les chambres pour obtenir la confiance de la chambre, elle a dit qu'elle allait renverser la tendance en matière migratoire, mais aussi en matière de politique étrangère. Ça, c'est important de le noter parce que Giorgia Meloni, en faisant ça, elle se positionne comme un leader à la fois en interne, parce qu'elle s'empare de champs entiers de la politique étrangère qui jusque-là était détenue par le ministère des Affaires étrangères, et elle le fait revenir dans le champ de l'exécutif le plus fort qui soit, celui du président du Conseil, c'est un titre auquel elle tient, hein, c'est pas la présidente du Conseil, c'est le Presidente Meloni. Et puis, c'est aussi important parce que sur la scène internationale, ça affirme la place de l'Italie dans une nouvelle géopolitique de l'Afrique, mais aussi dans le concert européen de la gestion des flux migratoires. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour ça ? Qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils proposent un plan qui touche plusieurs secteurs. Donc, c'est à la fois l'énergie, c'est à la fois l'agriculture, c'est à la fois les infrastructures, et c'est aussi l'éducation et la politique migratoire. Et donc, il y a un focus aussi sur l'énergie parce que, à partir du moment où s'est déclenchée la guerre en Ukraine, l'Italie s'est rendue compte qu'elle était, elle le savait, mais la dépendance au gaz russe s'est fait plus prégnante. Et donc, il s'agit, et finalement, ça rejoint un peu ce que faisait Mattei, de renégocier de nouveaux accords et de s'autonomiser par rapport aux Russes. Soit dit en passant, la chose un peu étonnante, c'est que les grands contrats passés, notamment avec la Sonatrach hein, en Algérie, sont faits avec des pays qui sont eux-mêmes des partenaires très importants de Gazprom et du gaz russe.
Sur la politique migratoire, alors, quels résultats on voit aujourd'hui dans la politique italienne ?
Alors, les chiffres qui ont été annoncés par M. Piantedosi, le ministre de l'Intérieur, il y a eu des annonces qui ont été faites à la fin de l'année 2024 et qui disent que le gouvernement Meloni a réduit de près de 60% les arrivées irrégulières en Italie en 2024. Alors, comment est-ce que ça a été obtenu? Ça a été obtenu notamment en faisant ce que l'Europe va faire, hein, c'est-à-dire en externalisant l'asile aux frontières de l'Union et en signant des accords avec la Tunisie notamment et avec la Libye. Mais ça, c'est une politique qui existe depuis très très longtemps. Elle s'inscrit bien dans l'esprit du plan Mattei, parce que ces accords, en fait, sont aussi conditionnés à autre chose. C'est-à-dire que le plan Mattei, c'est aussi un soutien aux régimes politiques qui sont en place, parce qu'un régime politique stable, c'est un régime avec lequel on peut commercer, conclure des accords économiques, mais conclure aussi des accords migratoires. Donc, pour le moment, ces chiffres-là, ils sont aussi à prendre avec prudence pour une autre raison, qui est que, de manière très paradoxale, le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, a fait campagne, hein, comme la plupart des extrêmes droites en Europe, sur cette question de l'immigration. Mais l'Italie, en tant que puissance économique, avec un taux de natalité extrêmement bas, a besoin de main-d'œuvre. Et le chiffre qu'on a, c'est que 450 000 personnes depuis 2 ans ont été régularisées en Italie. Donc d'un côté, on ferme les vannes et de l'autre côté, on choisit de les ouvrir parce qu'on en a besoin.
Par rapport au régime africain, est-ce que le gouvernement italien, ce populisme, c'est un atout pour elle pour travailler avec les régimes en place en Afrique du Nord?
Populisme, ou si ça rime avec autoritarisme, le gouvernement italien n'a aucun souci, comme beaucoup d'autres, hein, à soutenir des régimes autoritaires. C'est un des reproches qui sont faits aux accords, notamment avec le régime tunisien. On parle aussi parfois du cynisme. Hein. Il n'est pas sûr que si la répression augmente, le soutien continuera à se maintenir. Donc c'est un équilibre délicat. Mais en tout cas, tant qu'il s'agit de préserver ou de refouler ces flots de migrants, de réduire ce facteur d'attraction, il n'y a aucun problème à faire ces accords. Et puis par ailleurs, je parlais de facteur d'attraction, quand on parle de politique migratoire, il y a le facteur push et les facteurs pull, hein, ce qui pousse les gens en dehors de chez eux. Et bien, un des aspects les plus importants du plan Mattei, et il n'est pas si éloigné que ça de certaines logiques un peu tiers-mondistes de ces partis d'extrême droite, un des points importants, c'est de dire si on favorise le développement économique local, alors les gens n'auront plus nécessairement envie de traverser l'océan, de risquer leur vie pour partir. Donc on va favoriser ce développement par le biais de ces échanges sur ces différents terrains. Et ce n'est pas uniquement des contrats gaziers, hein, c'est aussi le développement, même si c'est parfois un peu cosmétique, mais d'énergie renouvelable. C'est aussi un énorme travail sur les infrastructures. Vous parliez de l'Algérie. Il faut savoir que le géant du BTP italien, qu'on appelle Condotte d'Acqua, est extrêmement présent en Algérie en ce moment. C'est eux qui réalisent la 4e rocade à l'ouest d'Alger. C'est eux qui réalisent la ligne à grande vitesse qui est en train d'être construite en Algérie. Ce sont des budgets de milliards d'euros, hein, 1 milliard d'euros pour cette ligne. Et puis, ils sont en train de se positionner comme les Chinois sur le futur premier grand port de Méditerranée, El Amdania. Et là, ce sont des contrats à 5 milliards d'euros, 25 quais construits. Les visites de Giorgia Meloni en Algérie se font notamment avec les grands patrons de la Confindustria, qui est le MEDEM. C'est-à-dire qu'on est là face à une politique qui n'est pas uniquement destinée à stabiliser les régimes, mais à établir de véritables relations commerciales.
Anne Marionnen, spécialiste de l'Italie. Carrefour du Maghreb à la réalisation Françoise Grelot. À bientôt.